Des mots pour le dire. Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à tous. Vous êtes bien sur FM+, émission Des mots pour le dire. En l'absence de Redouane, eh bien, je vais parler tout seul, faire l'émission tout seul aujourd'hui, exceptionnellement. Donc j'ai choisi de traiter le thème de « fils de l'homme ». Tout le monde connaît l'usage que fait Jésus de cette expression de « fils de l'homme ». Jésus l'emploie pour se désigner lui-même dans les évangiles. Il y a 74 occurrences de cette expression. Mais pour bien saisir les différents sens de l'expression, il importe d'abord de voir quelle en est l'origine. Alors, dans le langage habituel de la Bible, l'expression hébraïque « ben Adam » ou bien l'expression araméenne « bar Nasha » signifie d'abord simplement un humain, un individu quelconque. Et à partir même de « ben Adam », Adam ayant été le premier homme, on pourrait traduire « fils d'humanité ». Cette expression est très souvent employée dans la Bible juive pour mesurer la différence entre la transcendance divine et la petitesse humaine. Ainsi, on lit dans le livre des Nombres, 23-19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Alors bien sûr, si l'on était malicieux, on pourrait mettre la Bible ici en contradiction avec elle-même, puisque dans le livre des Nombres, on nous dit « Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir », mais dans d'autres livres, par exemple celui de Jonas, « Dieu se repent du mal qu'il a résolu de faire aux Ninivites après leur changement d'état d'esprit ». C'est dans le troisième chapitre de Jonas au verset 10. Et en bien d'autres endroits aussi de la Bible juive, alors ce n'est plus Dieu mais le Seigneur, hein, qui se repent. Il se repent tantôt d'avoir créé l'homme en Genèse 6:6, tantôt du mal qu'il a résolu de faire à son peuple en Exode 32:14, etc., etc. Mais enfin, ces contradictions ne sont souvent qu'apparentes, elles ne tiennent qu'à l'expression et au style. Et aussi, si ces contradictions sont réelles, je pense qu'elles attestent de l'extrême complexité de ce livre plutôt que de son incohérence. Bref, il y a un fossé à ce niveau-là, ou mieux encore un abîme, entre la puissance divine d'un côté et le Fils de l'homme de l'autre tel qu'il nous est présenté. Par exemple, on lit dans le livre de Job le fameux discours de Bildad de Shuach à l'adresse de Job. « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau ?» Livre de Job 25:4-6. Hein. Vous voyez, ver, vermisseau, hein, ce n'est pas vraiment grand-chose. Et le Seigneur s'adresse de même aux fidèles dans le livre d'Isaïe, Isaïe 51:12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe ?» Donc, je répète, vermisseau, brin d'herbe, il n'y a pas a priori de quoi se glorifier d'être fils de l'homme. Et cependant, nous allons voir maintenant le deuxième volet de l'expression. En effet, à l'opposé de ce que je viens de dire, cette même expression revêt un caractère transcendant dans l'apocalyptique juive. On lit en effet dans le livre de Daniel, qui date du deuxième siècle avant notre ère, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Livre de Daniel 7, chapitre 7, verset 13-14. Alors là, vous voyez, manifestement, le Fils de l'homme incarne une puissance immense, puissance chargée de juger et de régner, et cette puissance est égale à celle de l'Ancien des Jours, qui, dans le livre de Daniel, est une périphrase pour désigner Dieu. Par parenthèse, je remarque qu'il faudrait traduire là « semblable à un fils d'homme » plutôt qu'à un fils de l'homme. En effet, la Septante, la traduction grecque de la Bible juive, ne met pas d'article. Elle dit « huios anthropou » et non pas « huios tout anthropou » qui, à l'inverse, se retrouvera dans les évangiles. Dans les évangiles, nous aurons le fils de l'homme et non pas un fils d'homme. Alors, comment peut-on expliquer ce passage de l'homme considéré d'abord comme un ver ou un brin d'herbe, à l'homme considéré, à un fils d'homme considéré comme un roi, un juge céleste et souverain? Comment expliquer ce virage complet, cette métamorphose ou ce changement de statut? Alors, on pourrait dire qu'il y a eu d'abord un homme primordial qui a été créé à l'image de Dieu, et ensuite un homme chu ou déchu après la première faute. Il y a d'abord eu un Adam céleste et ensuite un Adam terrestre qui, lui, a été tiré de la poussière et qui y reviendra. Cette distinction entre les deux Adams suit exactement les deux récits de création dans la Genèse, selon ce que j'ai remarqué dans une émission précédente consacrée à l'image. Et Paul reprendra dans ses lettres, justement, je crois que c'est dans la première épître aux Corinthiens, l'opposition entre les deux Adams, l'Adam céleste et l'Adam terrestre. Donc, la venue du Fils de l'homme, selon le livre de Daniel, serait donc la restauration de l'Adam céleste, de l'homme parfait et primordial. Et ce double mouvement qui juxtapose à la fois la petitesse de l'homme et sa grandeur, eh bien, on le trouve déjà dans les psaumes. Voici ce qu'on lit dans le psaume 8, chapitre, verset 4-7. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Alors là, vous voyez, il s'agit de la petitesse de l'homme. Hein. Qu'est-ce que l'homme ? Vraiment, pas grand-chose. Mais tout de suite après, on lit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Et là, on voit la grandeur de l'homme créé à l'image de Dieu, comme dit le premier récit de création de la Genèse. Donc, vous voyez, à la fois petitesse et grandeur. Et on comprend ainsi que la spéculation théologique juive a mené à considérer deux images opposées de l'homme. Comme Janus, l'homme est bifronce, c'est-à-dire qu'il a deux visages. Et l'apocalyptique danielique ne fait qu'exploiter cette dualité. Alors, dans le livre de Daniel, ce mystérieux sauveur transcendant est corrélé encore au destin du peuple élu. On lit en effet en Daniel 7, 18, « Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Donc vous voyez que même s'il est céleste et divin, le fils de l'homme de Daniel se dit justement a encore un statut de roi terrestre, un statut plutôt collectif. Il n'est qu'une allégorie de ce qui est promis au peuple d'Israël. Alors ne le confondez surtout pas avec le Messie, puisque s'agissant de roi terrestre, le Messie traditionnel dans l'attente juive, lui, a un statut de roi terrestre. Donc le fils de l'homme doit bien en être distingué. Mais enfin, je répète, dans le livre de Daniel, il n'est qu'une allégorie de ce qui est promis au peuple d'Israël. Alors, il est revenu à un livre postérieur, à un livre du 1er siècle avant Jésus-Christ, le livre apocryphe des paraboles d'Enoch. Il lui est revenu d'avoir dégagé ce thème de l'allégorie à dimension collective pour y faire voir simplement la figure d'un personnage divin qui va s'individualiser et qui est susceptible de s'incarner par descente sur cette terre. On voit donc déjà la position de ce que sera ensuite le Christ. Alors, ce livre d'Enoch est intéressant. Alors, d'abord, tout le monde sait que ce personnage d'Enoch est un personnage sans doute légendaire. Hein. Tout le monde sait qu'il a été l'objet d'une assomption céleste, hein, et pour cette raison, nous dit-on, il ne mourut pas. Voici ce qu'on lit en Genèse 5, 24. Hein. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Hein. Moi, j'admire toujours la concision de ce verset, hein, et le tremplin qu'il fournit à l'imaginaire. Quel roman un romancier pourrait faire à partir de cette phrase ? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Hein. Ce Dieu le prit, ne peut-il être pris lui-même dans différents sens ? Enoch fut ravi, certes, mais comment fut-il ravi ? Fut-il ravi en extase ou bien en folie ? Devint-il fou, hein ? Et que se passe-t-il vraiment au bout de notre marche ? Car que veut dire aussi exactement « marcher avec Dieu » hein ? Alors on nous dit dans l'Épître aux Hébreux, en 11-15, hein, que Enoch fut vraiment dispensé de la mort parce qu'il avait la foi. Mais ça, c'est une simplification de catéchisme. Je pense qu'un romancier pourrait prendre la phrase que je viens de dire comme sujet d'un de ses romans, et cela stimulerait considérablement son imaginaire. Alors, je vais laisser cet Enoch s'envoler auprès de Dieu, comme d'autres personnages, hein, par exemple Élie, hein, ou bien dans la mythologie païenne, le personnage d'Icare, ou bien celui de Ganymède, qui fut envolé par un aigle, pris par un aigle, je crois, et devint l'échanson des dieux, celui qui servait à boire aux dieux dans leur festin. Il y a aussi le fameux Apollonius de Tyane, ou Simon de Samarie, hein, qui lui-même a prétendu voler, et Jésus lui-même. Hein, c'est la cohorte des célestes aviateurs dont parle Apollinaire dans Zone, hein, c'est le Christ qui monte au ciel plus haut que les aviateurs, etc. Il détient le record du monde pour la hauteur. Donc cette parenthèse que je viens de faire sur Enoch, peut là aussi nous faire rêver. De toute façon, le livre attribué à Enoch est un livre pseudépigraphe, hein, c'est-à-dire que Enoch, même à supposer qu'il ait existé, n'est pas celui qui a écrit le livre. Alors, reste dans le livre d'Enoch ce mystérieux personnage du Fils de l'Homme, qu'il nous présente à son tour après Daniel comme tenu caché dès l'origine par le Très-Haut, mais devant se révéler aux élus. C'est la troisième parabole. Hein. Donc vous voyez qu'en cette seconde moitié du premier siècle avant notre ère, le climat s'est encore assombri. Et le texte d'ailleurs parle des persécutions. Or les persécutions dont il parle font peut-être allusion à celles dont furent victimes alors les Esséniens. Donc le fils d'homme d'Enoch et l'attente eschatologique qui est de type cataclysmique, hein, dont il fait montre, serait alors à se situer dans ce cadre-là. Alors vous savez qu'on a rapproché de la communauté essénienne Jean le Baptiste, et parfois aussi Jésus lui-même. Hein. Dans la réalité, il y a eu sûrement compétition entre les deux, entre Jean le Baptiste et Jésus, avant que la version officielle en christianisme ne subordonne le premier au second. Hein. Ce qui est certain, c'est que Jésus lui-même s'applique à lui-même communément cette expression de « fils de l'homme », à laquelle parfois il donnera un sens banal, celui que j'ai cité en commençant, c'est-à-dire un sens de simple participant à l'humanité, mais expression aussi à laquelle il donne souvent un sens apocalyptique, le sens apocalyptique du personnage divin et céleste qu'il emprunte à la fois à Daniel et aux paraboles d'Enoch.
Thank you.
Bien. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de FM+, et l'émission d'aujourd'hui concerne le Fils de l'homme. J'ai dit en commençant que l'expression avait deux sens, un homme ordinaire, banal, et un personnage vraiment prestigieux, hein, un personnage céleste. Alors, lorsque Jésus parle de lui-même comme un homme ordinaire, eh bien, l'expression « fils de l'homme » renvoie justement au premier sens. Par exemple, quand on lit « Les renards ont leur tanière, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » En Matthieu 8, 20, en Luc 9, 58, et aussi dans l'Évangile selon Thomas, au Logion 86. Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fils d'homme de la Bible juive est devenu fils de l'homme, fils de l'homme. Le huios anthropou de la Septante est devenu huios tout anthropou, hein, le fils de l'homme. Mais là, vous voyez, à propos, dans cet épisode sur les renards et les oiseaux du ciel, qui, eux, ont un lieu, un refuge, hein, les renards, les tanières, les oiseaux du ciel en déni, le fils de l'homme, lui, il est démuni, et là, vous voyez l'humanité de Jésus dans sa plus grande humilité. J'avais dit à un moment, dans une émission, à propos de homme, que homme et humus, hein, en latin, venaient de la même racine, homo humus, et aussi humble, hein, voilà. Donc, l'émotion et le pathétique de la situation, hein, sont évidents. Jésus est notre frère en humanité et nous pouvons, avec lui, être en empathie dans ce que les Allemands appellent l'Einfühlung, c'est-à-dire la projection identificatrice. Hein. Donc, ce premier sens de fils de l'homme, dans le cas de Jésus, nous renvoie à la nature, à sa nature humaine, dont on nous a dit, assez tardivement, au concile de Chalcédoine, à mon avis, sans grand souci exagéré de logique, mais enfin, là, je n'engage que moi, dont on nous a dit qu'elle coexistait avec sa nature divine. Au concile de Chalcédoine, Jésus a une nature totalement humaine et aussi une nature divine. Mais alors, dans d'autres cas, il s'agit bel et bien du sens apocalyptique de l'expression « fils de l'homme ». Par exemple, lorsque Jésus nous dit « Le Fils de l'homme est maître du Shabbat hein, », en Matthieu 12, 8, l'expression renvoie bien à un être céleste et divin. Hein. Et cette phrase est absolument inadmissible pour un pharisien ou un observant de la loi. Hein. Pareillement pour la phrase « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés », en Marc 2, 10, en Luc 5, 24, etc. Eh bien, cette phrase constitue évidemment un blasphème pour les pharisiens. Ils disent en effet dans l'évangile de Luc, Luc 5, 21, « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul hein? ?» Donc, si Jésus a voulu vraiment incarner ce personnage lumineux, c'est-à-dire transcendant, personnage sacré presque, hein, on comprend qu'il ait été rejeté par sa communauté d'origine, cette communauté l'ayant accusé de se faire Dieu. Voici ce que dit l'évangile de Jean, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, » c'est les juifs qui parlent, les scribes et les pharisiens, « mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 10, 33. Hein. Alors, on comprend là que l'utilisation par Jésus de ce rôle hein, est pu choquer. Mais surtout, le sens apocalyptique de l'expression est évident, lorsqu'il est question dans les évangiles du jugement dernier qui accompagnera la venue en gloire du Fils de l'homme. Cette venue, on l'appelle souvent la parousie. Hein. Voici ce qu'on lit à Matthieu 24, 30, 31. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors vous voyez bien que ici, la reprise du livre de Daniel est manifeste, et même elle est parfois littérale. En effet, des expressions comme les nuées du ciel, la gloire, sont absolument recopiées. Et évidemment, on retrouvera bien plus tard toutes ces expressions à l'identique dans le credo de Nicée, que nous avons tous appris ou récité à la messe. Enfin, je rappelle que je suis d'origine catholique personnellement. Donc ce credo de Nicée nous dit « Il siège à la droite de Dieu et de nouveau il va venir dans la gloire, juger vivants et morts, et son règne n'aura pas de fin. » Toutes ces expressions viennent du livre de Daniel. Et aussi, bien sûr, de Matthieu, qui le reprend. Pour la représentation générale de la scène du jugement, vous pouvez vous reporter au cri d'Étienne, qui, devant subir son martyre, dit dans les Actes des Apôtres, Actes 7:56, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Qui siège à la droite de Dieu, et ben voilà, ce que dit le credo, c'est la même chose. Alors maintenant, la question que je me pose souvent est celle-ci. Est-ce qu'il s'agit là de l'enseignement initial et essentiel de Jésus? On s'accorde ordinairement à dire que oui. Mais personnellement, et là encore je n'engage que moi, j'ai peine à trouver une cohérence entre ce discours sur le Fils de l'homme juge, un discours donc fait de menace et d'imminence. D'imminence. Je rappelle que imminence vient de minor minari, qui en latin veut dire menacer. Donc peut-on trouver une cohérence entre un discours de menace et les paroles d'apaisement par lesquelles ailleurs, dans d'autres textes évangéliques, Jésus nous rassure, il nous dit bien souvent « n'ayez pas peur », Matthieu 14, 27, 17, 7, Marc 6, 50, Jean 6, 20, Évangile de Thomas, Logion 37, à la fin, verset 12. Donc, maintenant, vous pourriez me dire que ceux que l'on menace et ceux que l'on rassure, ceux à qui, justement, on présente le Fils de l'homme comme un épouvantail presque, et puis ceux que l'on rassure en leur disant de ne pas avoir peur, ne sont pas les mêmes personnes. Vous pourriez me dire que les premiers ne sont pas élus, tandis que les seconds le sont élus. Mais tout de même, cela me paraît peu charitable qu'ainsi que menacer les gens. En tout cas, je pense que, et ça me semble une évidence, le discours de menace corrélé à une certaine utilisation du Fils de l'homme, apocalyptique, peut évidemment être instrumentalisé par le magistère ecclésial qui peut tirer tout son pouvoir de la peur de ceux qui lui sont assujettis. Comme Knock, dans la pièce de Jules Romain, tire son pouvoir de la peur de ses patients. Vous savez, Knock persuade ses patients que tout être bien portant est un malade qui s'ignore, et il arrive à mettre tout un canton au lit, tout un canton s'alite et prend sa température. Donc là, il y a une magnifique allégorie de la façon dont un pouvoir totalitaire incarné par Knock peut s'installer en spéculant sur la peur des gens. Alors, je me demande si ce discours de menace n'a pas été mis dans la bouche de Jésus précisément dans ce but. Je n'en sais rien. Je n'ose bien sûr pas l'affirmer, bien que je sois parfois tenté de le dire. Vous savez que l'Évangile nous dit que c'est au Fils de l'homme que Dieu a donné pouvoir de juger. Voici ce qu'on lit en Jean 5, 22. « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Alors, le Fils opérera le tri final des bons et les méchants, selon le scénario connu que l'on appelle celui de la moisson eschatologique. Voici ce qu'on lit dans l'Apocalypse, Apocalypse 14, 14. « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. » Vous voyez ? Alors, j'imagine les peurs que de tels passages ont pu induire chez les gens au fil des générations. Et je me demande si on a bien fait de maintenir ce discours dans la bouche de Jésus. Par parenthèse, vous savez que l'Apocalypse, par exemple, n'a été intégré dans le canon chrétien qu'après beaucoup d'hésitations. Je pense à ce que donnera plus tard le fameux Dies Irae, qui nous dira, alors en latin, « Iudex ergo cum sedebit, quid la tête apparebit, nil inultum remanebit, c'est-à-dire quand le juge siégera, tout ce qui est caché apparaîtra, sera mis au grand jour, et rien ne demeurera sans vengeance, voyez, vengeance, inultum. Donc, ce fils de l'homme est un personnage vengeur et vindicatif, hein, c'est la même racine, vous voyez. Alors, ces textes me semblent potentiellement dangereux. Et alors, on aurait peut-être dû regarder à deux fois avant de les maintenir. Vous me direz qu'on aurait supprimé évidemment beaucoup de passages de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, hein, des évangiles. Mais on aurait pu d'autant mieux hésiter que la venue vindicatrice, comme je viens de dire, du Fils de l'homme, pouvait être démentie par le temps historique lui-même, hein. D'abord, cette venue, en effet, a été dite très proche, très proche. Hein. Voici ce que dit Marc, Marc 13, 28, 30. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme, le voici, notre Fils de l'homme, est proche, il est proche, à la porte. » Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, avant que tout cela n'arrive. Hein. Alors bien sûr, ensuite, quand tous les témoins de cette venue qui ainsi a été prédite, c'est-à-dire quand cette génération se furent éteints, c'est-à-dire quand ils sont morts, hein, bon, eh bien, on a vu la contradiction entre le texte et ce qui s'était produit, et on a pu se dire que Jésus s'était trompé, et puisque le Fils de l'homme n'était pas venu, hein, il nous dit « cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive », et puis cela ne s'est pas produit. Alors, il y a peut-être eu une inflexion, justement, du thème du Fils de l'homme, hein, et après la mort du dernier auditeur ou du dernier témoin de cette parole prêtée à Jésus, eh bien, il y a peut-être eu une réinterprétation mystique de tout son message eschatologique. Hein. De toutes les façons, on a bien été obligé alors d'éloigner le jour du jugement sine die, comme on dit en latin, c'est-à-dire l'éloigner sans fixer de jour précis, hein, puisqu'il ne s'était pas produit selon ce que Jésus avait promis ou prophétisé, etc. Hein. Alors, dans l'émission consacrée au jugement, hein, j'ai bien analysé les modalités de ce report. Hein, on a accepté les délais du temps. Hein. Alors, je note aussi maintenant un point essentiel, c'est que dans la reprise évangélique du thème biblique du Fils de l'homme, un élément nouveau figure qui n'existe ni dans le livre de Daniel, ni dans le livre des paraboles d'Enoch. Cet élément est le suivant. C'est celui de la mort nécessaire du Fils de l'homme pour que soit procuré le salut. Voici ce que on lit en Luc 17, 24, 25, verset 24. « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Alors là, vous voyez que c'est le thème danielique du Fils de l'homme qui va venir sur les nuées du ciel. Et puis, verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc vous voyez que le thème du Fils de l'homme s'amalgame ici, hein, au thème du Messie crucifié et de sa mort salvatrice que j'ai traité l'année dernière dans l'émission consacrée au Messie. Et s'amalgame aussi avec le thème du serviteur de Dieu. Et ces inflexions particulières du Messie et du serviteur souffrant, qui sont juifs d'origine, hein, et qui constituent aujourd'hui encore le christianisme majoritaire, il me semble que c'est à Paul que nous les devons. Donc, dans le verset 25 du passage que je viens de dire, « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération », je vois une interpolation manifestement paulinienne. L'influence de Paul sur le rédacteur de Luc est en effet connue. Vous êtes bien à l'écoute de FM+, et le thème de l'émission « Des mots pour le dire » est consacré à l'expression « le fils de l'homme ». Au micro, Michel Théron. Alors, je me demande si le Jésus réel a pu vraiment incarner cette théologie que je viens d'analyser ou de signaler, théologie de la mort expiatoire. Hein. Est-ce que le Jésus réel a pu même prévoir sa mort? Vous savez que dans La dernière tentation du Christ, qui est un roman de Kazantzakis et un film de Martin Scorsese, eh bien Jésus, tout simplement, accepte de remonter sur la croix uniquement pour faire plaisir à Paul et pour ainsi valider son discours. Hein. Il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Autrement, Jésus, qui lui n'avait pas été mis à mort, donc il y a là un affleurement du docétisme, hein, de ce qu'on appelait l'hérésie docète, et aurait pu continuer justement une vie humaine normale. Mais non, Paul lui demande de remonter sur la croix, Jésus le fait, il s'exécute pour justifier le scénario paulinien. Alors, bon, voilà, je laisse les questions en suspens, il faut y réfléchir. Hein. De toutes les façons, dans l'évangile de Jean, alors la crucifixion du Fils de l'homme n'est pas une mise à mort sordide, mais c'est une élévation dans la gloire. Voici ce qu'on lit en Jean 3, 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Vous voyez, élévation, hein, la crucifixion, élévation. On lit encore en Jean 8, 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Et il y a même ici une autre interprétation possible, suivant la coupure de mots qu'on choisit dans le manuscrit. Vous savez que dans les manuscrits, les mots ne sont pas séparés, hein, et on peut couper les mots souvent de façon différente. Par exemple, si on peut avoir « oti », vous connaîtrez que je suis, hein, au lieu de o ti séparé, hein, ce que je suis. Alors si on met vous connaîtrez que je suis, hein, à ce moment-là, l'exaltation de la croix est une véritable théophanie. En effet, je suis, c'est le nom par lequel Dieu se désigne en monde juif. Vous voyez Exode 3, 14. Donc si je coupe, hein, non pas vous connaîtrez ce que je suis, « Oti ego eimi », hein. Mais si on coupe « vous connaîtrez que je suis »,« Oti », tout seul, hein, « ego eimi », alors « ego eimi », évidemment, c'est tout le monde là voit apparaître Dieu. Je vous signale que lorsque Jésus, lors de son arrestation dans le livre de Jean, dit « qui cherchez-vous ?», alors on lui dit « Jésus de Nazareth », alors il dit « ego eimi »,« je suis », alors à ce moment-là, tous les assistants tombent par terre, parce qu'ils sont justement témoins d'une théophanie, hein. Il ne faut pas traduire « c'est moi », il faut traduire « je suis celui que vous cherchez ». Mais le mot, l'expression est très numineuse. Hein. Alors, l'exaltation de la croix, « cum exalta veritis », lorsque vous m'aurez élevé sur la croix, je viens de citer la Vulgate, hein, l'exaltation de la croix est une fête catholique, d'ailleurs, dans le calendrier des catholiques. Hein. Eh bien, elle est paradoxale, et ce paradoxe qui transfigure l'échec, c'est le fond du christianisme majoritaire. Ce n'est pas le mien, mais c'est le fond du christianisme majoritaire. À mon avis, ce paradoxe transfigurant l'échec est extrêmement problématique, ne serait-ce que parce qu'il peut autoriser un dolorisme certain. C'est ce que j'ai traité dans mon émission consacrée à Agneau de Dieu. Alors, je vais maintenant résumer tout ce que j'ai dit lors de cette émission. Je suis parti des deux sens originaux de l'expression « le fils de l'homme » et j'y vois là, hein, et c'est ce qui me semble à mon avis l'important, hein, dans ce thème, hein, je vois là l'idée essentielle d'une dualité de l'homme. L'homme est à la fois un vermisseau ou un brin d'herbe d'un côté et un archétype céleste ou une icône du divin, ou bien en termes strictement laïques, qui est la position dans laquelle je me place, hein, position laïque, je verrai là l'homme capable du pire et du meilleur, et je dirais que l'homme est parfois capable de dépassement, de transcendance, vous voyez, Pascal dit « s'il s'abaisse, je l'élève, s'il s'élève, je l'abaisse ». Donc, l'homme est finalement à deux aspects, et tout en étant faible et imparfait, il peut justement être autre qu'il n'est. On connaît la phrase « l'homme passe infiniment l'homme ». Eh bien, cette phrase est essentielle. L'homme n'est pas ce qu'il est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, n'est pas ce qu'il est? Il n'est pas essentiellement ce qu'il est accidentellement, ce qu'il est d'habitude dans tous les moments ordinaires de sa vie. Donc, je dirais que l'homme doit devenir homme, homme avec H majuscule. D'abord une minuscule, ensuite H majuscule. C'est pour ça que fils de l'homme, on peut y voir les deux sens que j'ai signalés, suivant qu'on mettait une minuscule ou bien une majuscule à homme. Donc, l'homme doit devenir homme. En stylistique, on appelle ça une antanaclase. L'antanaclase, comme je suis professeur de français, j'ai beaucoup étudié les figures de style. L'antanaclase, c'est la répétition d'un même mot avec affectation d'un sens différent à chaque occurrence du mot. Par exemple, Rome n'est plus dans Rome, ou bien une femme est une femme, Paris sera toujours Paris. Tout le monde sent bien que là, il n'y a pas de tautologie, mais il y a une confrontation de plans. Le plan de l'existence et le plan de l'essence. Hein. Alors, tout le monde sait que l'antanaclase, justement, peut résumer le fond de toute la pensée gnostique. Alors, pourquoi? Parce que la pensée gnostique oppose toujours dans l'homme son apparence, comme on dit en grec « phainomenon », sa manifestation événementielle, circonstancielle, et son essence. En grec, on dit « ousia ». La gnose, qui m'est très chère, hein, vous vous en êtes aperçu lors des précédentes émissions, oppose toujours le réel constatable et l'idéal archétypal qui peut le frapper d'inanité ou appeler à son dépassement. Mais ce n'est pas nécessaire même d'aller chez les gnostiques pour revoir ce thème. Vous connaissez tous la phrase de Diogène le cynique, c'était un philosophe cynique, lui, et pas gnostique. Cette phrase qui est « Je cherche un homme ». Alors Diogène se promenait dans la ville d'Athènes en plein jour, une lanterne allumée dans la main. Alors les Athéniens lui disaient « Mais enfin Diogène, il fait plein jour, mettons c'est midi, hein, le soleil est au-dessus de nous, pourquoi est-ce que tu as allumé ta lanterne ?» Et Diogène répondit « Je cherche un homme ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, « Je cherche un homme » Ne pensez pas, hein, bien sûr, que Diogène ait eu des mœurs spéciales. Hein. Non, Diogène cherchait seulement quelqu'un qui fût digne du nom d'homme. En chaque homme, avec une minuscule, H minuscule, il cherchait l'homme avec H majuscule, vous voyez. Alors, bien sûr, Diogène doutait de jamais trouver l'homme idéal. Mais on n'est pas obligé de partager le pessimisme de Diogène. Hein. Malgré ce que la gnose appelle la chute ontologique, mais enfin, ce thème se trouvera jusque chez le philosophe Heidegger, par exemple, la chute de l'être essentiel dans l'étang. L'étang, alors, en fait, pas de faute d'orthographe à étang. Étang, c'est le participe du verbe être. Hein, c'est pas plouf dans un étang. La chute de l'être dans l'étang. Eh bien, malgré cela, malgré cette dégradation de l'essence dans l'accident, hein, eh bien, l'essence continue de miroiter dans l'accident. Et alors, antanaclase vient du grec antanaclasis, qui signifie reflet visuel, écho sonore, ou bien éclat aussi, comme on dit, des éclats de voix ou des éclats de lumière. Hein. À la fois visible et verbal sont liés ici. Hein. Donc, il faut chercher dans ce miroitement de l'essence le dépassement de la dégradation ontologique. Alors, on sait aussi que l'antanaclase est l'archétype stylistique majeur de tout l'évangile selon Thomas. Par parenthèse, je vous signale que la semaine prochaine, mardi prochain, eh bien, je ferai au Centre 665 le dernier atelier concernant l'évangile selon Thomas pour cette année. Donc, pour la gnose, il s'agit de réunir au second homme, à la dent terrestre, hein, à la dent poussière, hein, qui est un homme imparfait, le premier homme, la dent céleste, ou l'homme primordial, celui qu'il a été autrefois, celui qu'il peut être à certains moments et celui qu'il doit redevenir. Donc c'est la tâche essentielle. Il faut donc devenir ce que l'on est. Alors qu'est-ce que ça veut dire devenir ce que l'on est ? Ça veut dire ne pas se contenter d'être ce que l'on est, mais devenir ce que l'on est réellement, essentiellement, archétypalement, c'est-à-dire, ou fondamentalement, etc. Alors, je revois ici maintenant mon expression du Fils de l'homme, non pas dans le cadre du catéchisme qui nous a été inculqué, c'est-à-dire cet être dont nous devons redouter le jugement, qui va venir sur les nuées du ciel dans la gloire pour juger vivants et morts. Non. Alors, le Fils de l'homme n'est plus un juge extérieur, mais le Fils de l'homme signifie ce que nous pouvons tous être, si nous nous réunifions de cette façon, c'est-à-dire si nous unissons à l'Adam terrestre, à l'Adam poussière, poussière tu es, poussière tu reviendras, dit Dieu à Adam après la chute, dans le deuxième récit de création, il faut unir à cet Adam terrestre, à cet homme poussière, l'Adam céleste, l'Adam primordial fait à l'image de Dieu. Alors, cette tâche de la réunification, elle est centrale dans l'évangile selon Thomas. Voici ce qu'on lit au Logion 106. Jésus a dit, lorsque vous faites le 2-1, voilà la réunification, donc lorsque vous réunissez les deux Adam, mettons, vous deviendrez fils de l'homme. Et si vous dites, montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. Donc, devenir fils de l'homme, on peut devenir fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'est pas du tout un juge à redouter, mais il est un modèle, justement, de ce que nous pouvons être, ce que nous pouvons devenir. Alors, cela produit un miracle, si vous dites « montagne, éloigne-toi », elle s'éloignera. Mais ce qui permet ce miracle, c'est-à-dire l'ambulation de la montagne, le fait que la montagne va se mettre à bouger, c'est pour la gnose l'effort et le travail. Et ce n'est pas la foi. La foi, comme le dit le discours majoritaire. En effet, on nous a appris que c'est la foi qui déplace les montagnes, qui les fait bouger. Mais le discours majoritaire s'adresse à la foule, qui effectivement n'est pas naturellement portée à faire effort. C'est pour ça que la gnose a mauvaise presse en Église, parce qu'elle est considérée comme élitiste ou élitaire. Elle n'est pas à la portée de tous. Ça mérite d'être discuté. Je pense que la grande raison, justement, qui a fait refuser la gnose, c'est que, pour un gnostique, il n'y a pas nécessité de la médiation cléricale. Il n'y a pas nécessité de clergé, justement, dans la recherche spirituelle, pour accompagner, pour gérer et pour encadrer la recherche spirituelle. Et donc là, comme toujours, il s'agit d'une question de pouvoir, pouvoir du clergé sur ce qu'on appelle les ouailles, c'est-à-dire les petites brebis, ouikula, la petite brebis. Donc, pour ces différentes raisons, d'abord peut-être la difficulté de comprendre ce que je viens de dire à la fin de l'émission, la réunification de l'être et devenir fils de l'homme, et aussi, principalement pour ces questions d'encadrement du troupeau du peuple fidèle, eh bien on a refusé la position gnostique. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai choqué certains auditeurs, je serai heureux de les rencontrer, je le répète, mardi prochain, au dernier atelier sur l'Évangile selon Thomas, au 665 route de Mende à Montpellier, à 18h30. C'est un atelier qui va de 18h30 à 20h, 20h30. Ce sera une occasion peut-être de discuter ensemble. Eh bien voilà, j'espère que la prochaine fois, Redouane sera en face de moi, que nous pourrons faire l'émission à deux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis, Michel Théron au micro, vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. Au revoir.